21h passée de quelques secondes, voici votre rendez-vous littéraire hebdomadaire sur Radion, c'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Ce soir, nous allons avec nos deux invités tourner les pages du livre de l'histoire nationale et histoire locale puisque nous évoquons d'ici quelques minutes l'entrevue Pétain-Goering dans l'Yonne, en gare de Saint-Florentin-Virginie, le 1er décembre 1941. Comment cette rencontre entre ces deux hommes a-t-elle été organisée? Quels étaient alors les enjeux de cette entrevue? Qu'en est-il ressorti et quelles en ont été les conséquences pour les Français qui résident aussi bien en zone occupée ou en zone non-non, la fameuse zone non-occupée? En tout cas, autant de questions qui, j'en suis certain, trouveront aujourd'hui des réponses prolongées par des analyses et des informations que vont nous livrer nos deux invités que je vous présente. D'abord, François Genreau. Bonsoir, François.
Bonsoir.
Alors, vous êtes le président de la SAHVCB, il faut comprendre, Société historique et archéologique, Société archéologique et historique, des vallées du Créanton et de la Brumance. Vous êtes venu accompagné de Frédéric Gant, qui d'ailleurs sort d'un colloque d'Adiamos 89 consacré au Front populaire qui a eu lieu le week-end dernier. Frédéric Gant, agrégé d'histoire, vous êtes enseignant. Tu es, Frédéric, on va se tutoyer, enseignant au lycée Jacques Amyot à Auxerre. Et vous, François, vous avez mené une longue carrière d'instituteur.
De professeur.
De professeur
d'histoire.
Alors, merci en tout cas à vous deux d'être ce soir devant le micro de Wagon Livre. Je me tourne d'abord
vers vous.
Mais c'est un grand plaisir parce que nous sommes finalement au 75e anniversaire obligé de cette entrevue. Nous sommes dans les clous et c'est l'occasion. À mon avis, si les anniversaires ne sont pas des occasions de réflexion pour les historiens, ce serait un très gros échec. Frédéric, est-ce que dans un premier temps, tu peux nous expliquer, avant de rentrer dans le vif du sujet, mais quelle est la situation de la France début décembre 1941 sur les plans militaires, économiques? Quel est l'état de la France en 1941?
Je crois même, Yannick, qu'on peut dire que c'est la question première qu'il fallait poser. Parce que c'est pas avant de commencer, c'est à cause de cette situation qu'on va avoir cette entrevue. Que se passe-t-il le 1er décembre 1941? Eh bien, on a un maréchal qui cherche à desserrer l'étau allemand qui pèse sur la France. Et cet étau, il pèse depuis l'été 40. La France a perdu la guerre, l'armistice a été demandé par le maréchal Pétain le 17 juin, l'armistice signé 22, opérationnel le 25, consacre l'occupation aux deux tiers de la France, la zone nord, par les Allemands. Il reste une zone sud, une zone libre, dans laquelle le maréchal Pétain, à Vichy, a conservé une souveraineté française, qui sera d'ailleurs l'occasion pour lui, c'était sa principale volonté, lui et son entourage, le 10 juillet 40, sera l'occasion pour lui de créer une souveraineté française, l'État français, avec l'Empire derrière. C'est très important, on va en reparler de l'Empire. Donc on peut penser qu'on a affaire à deux États, l'un qui est l'Allemagne qui occupe le Nord, l'autre qui est l'État français, mais en réalité, l'État français est subordonné à l'occupant allemand. Pourquoi? Parce que, un, la ligne Maginot qui sépare les deux est contrôlée par les Allemands. Elle joue un peu comme un lasso.
Non, c'est pas la ligne Maginot, à mon avis.
La ligne de démarcation.
Qui permet effectivement de contrôler à la fois le courrier, le ravitaillement, même les déplacements de fonctionnaires, de ministres. Il faut savoir que, par exemple, avant mars 41, aucun ministre, aucun préfet de zone nord peut se rendre à Vichy. Donc ça, c'est la première chose, il faut desserrer. Il y a aussi tout simplement les réquisitions, les frais d'occupation que les Allemands exigent aux Français, 400 millions, au début 300, puis 400 millions de francs or par jour. Il y a aussi l'absence de main-d'œuvre, 1 800 000 prisonniers de guerre qui vont progressivement partir en Allemagne dès la fin de l'année 40. Donc, et puis, pour terminer aussi, c'est peut-être apparemment secondaire, mais c'est très important. Les lois et décrets qui sont prises par l'État français, ce que De Gaulle appellera le gouvernement de Vichy, ne sont acceptés et ne sont valables que si les Allemands en sont d'accord. Donc on a un État apparemment souverain, mais qui est un État de seconde zone, qui a besoin en permanence de négocier avec l'occupant allemand, dont au départ l'autorité se trouve à l'hôtel Majestic à Paris. Hein, c'est le grand quartier général avec un grand quartier de l'armée allemande. Et il faut en permanence à Vichy, d'abord Pétain, puis son vice-président qui a le rôle de Premier ministre Laval, trouver des canaux diplomatiques, des intermédiaires, des homologues pour pouvoir négocier. Donc en fait, l'entrevue de Saint-Florentin, c'est une entrevue parmi d'autres dans un cadre de négociation nécessaire. Parce que depuis l'armistice, les Français sont obligés de négocier le futur traité de paix. Et il y a cette inégalité dont je parlais entre les deux pays.
Alors effectivement, il y a ce pillage donc de la France, pillage économique, hein, charbon, essence et puis denrées alimentaires. François Champeau, vous souhaitez
Oui,
peut-être ajouter quelque chose?
je voudrais rajouter quand même que le mémorandum qui va être remis fait l'état de la France en 41. À mon avis, c'est tout l'intérêt du mémorandum qu'on peut étudier maintenant. C'est cet état de la France qui est donné à Goering et qui a été préparé par Pétain et par son entourage direct.
Alors, on aura l'occasion de reparler du mémorandum, l'entrevue de Saint-Florentin, donc 1er décembre 1941, mais il y a eu une rencontre alors beaucoup plus politique, puisque si j'ai bien lu les actes du colloque, parce que je ne l'ai pas dit en début d'émission, mais tous les deux, vous avez participé en 2011, le 3 décembre 2011, à un colloque qui a eu lieu à la salle des fêtes de Virginie et qui commémorait historiquement et scientifiquement parlant à cet événement. Il y a eu la rencontre politique, la fameuse poignée de main de Montoire, Pétain-Hitler, et décembre 1941, il y a l'entrevue de Saint-Florentin-Virginie. Alors, un petit mot peut-être sur la rencontre de Montoire, qui était extrêmement et hautement politique, qui finalement a engagé la France sur la voie de la collaboration. C'est ça qu'il faut retenir?
Oui, alors sur le fond, on peut dire que c'est apparemment le 24 octobre 1940, une rencontre très politique. Le 30 octobre, Pétain, une semaine après, prendra la parole à la radio, comme nous maintenant, en disant c'est l'histoire qui me jugera. Donc il assumait complètement cette collaboration. Mais en réalité, cette collaboration, elle était déjà là pour essayer de desserrer l'étau dont je parlais. Hein. Dès les premiers mois, il y a 1300 usines qui doivent travailler pour l'Allemagne, c'est déjà le début des réquisitions, c'est l'encaisse or de la Banque de Belgique qui avait été confiée à la France qui part en Allemagne, c'est les mines d'or et de cuivre de Yougoslavie, de Bohr, qui sont vendues à l'Allemagne pour leurs intérêts, alors que ça aurait pu être une manière de contrer l'Allemagne. Donc c'est autant de choses, et puis cette absence de prisonniers de guerre, qui vont peser sur la France. Et donc Laval, parce qu'il faut quand même parler de Laval, c'est quand même l'homme fort de cette première partie de la collaboration, Laval va penser qu'il peut, en fieffé et matou à paysan, rouler les Allemands. Et il va essayer tout seul de mener une diplomatie en tenant à l'écart, il va être nommé même en même temps ministre des Affaires étrangères par Pétain, rouler les Allemands pour obtenir des avantages. Et il va essayer de s'engager sur une voie militaire, une sorte de début de co-belligérance avec eux, en leur disant, vous voulez vaincre les Anglais, je vais vous aider. Dans l'Empire, nous avons les moyens, parce que l'armistice avait laissé la pleine souveraineté de l'Empire à la France, hein, au régime de Vichy. Nous avons les moyens de vous aider. Et il y avait un protocole secret, ce qu'on ignore souvent dans l'entrevue de Montoire. Et c'est ça qu'attendaient les Allemands. Ils attendaient dans la collaboration un engagement militaire. Mais Pétain n'entendait pas se laisser berner par Laval, qui avait d'ailleurs ses entrées à l'ambassade d'Allemagne à Paris, rue de Lille, avec Otto Abetz. Et il menait une diplomatie comme un véritable chef d'État, laissant entendre à son entourage, quand il revenait à Vichy, que Pétain était un homme vieillissant qui n'avait aucune clairvoyance, que lui, il saurait duper les Allemands et il pourrait obtenir des avantages pour la France. Et le 13 décembre 1940, Pétain n'en pouvant plus, va organiser l'arrestation et l'éviction
De
de Laval.
Disant même, je n'ai plus confiance en
Je n'ai
lui.
plus confiance.
pour répondre à la question des Allemands, pourquoi vous êtes-vous séparés de Laval, qui d'ailleurs reviendra au pouvoir et ira parfois au-delà des exigences allemandes, plus tard dans la collaboration.
Absolument. D'ailleurs, on oublie souvent que ce qui avait commencé à faire échouer, si on peut dire, ce protocole secret, c'est Mussolini. Parce qu'en fait, Mussolini, quand il apprend l'entrevue de Montoire, il exige immédiatement que Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères, et Hitler se rendent immédiatement en Italie, sans quoi il va prendre des mesures. Il va d'ailleurs envahir la Grèce immédiatement, sans demander à son allié de l'axe allemand, parce qu'il craint que la France, que l'Allemagne se tourne trop vers la France. Donc déjà, ça va mettre une pause ça, du côté allemand dans la collaboration militaire. Laval, sentant qu'il est dépassé, fait de nouvelles propositions alléchantes aux Allemands. Je vais encore vous donner des armes, je vais vous aider à lutter contre les Anglais. Il y a plusieurs rencontres secrètes à Paris. Et il n'a pas le temps de le finir pour les raisons qu'on disait, c'est que Pétain va le mettre sur la touche.
Et puis 41, oui, François. Oui,
la grande différence entre Montoire et Saint-Florentin, c'est que Montoire, c'est du politique, alors que Saint-Florentin se veut la rencontre entre deux soldats. C'est bien précisé partout dans tous les dossiers qu'on trouve. Bon, Saint-Florentin, c'est la rencontre entre deux maréchaux.
Qui avaient tous les deux fait, avaient combattu pendant la Première Guerre mondiale.
La Grande Guerre, c'est ça. Voilà.
Alors, on va marquer un premier temps de pause. Juste rappeler quand même que finalement, en 1941, c'est la fin de la guerre un petit peu de l'Allemagne contre la Grande-Bretagne. Et puis, il y a d'autres fronts qui vont s'ouvrir. Alors, c'est une semaine après la rencontre de Saint-Flo, c'est l'entrée en guerre des États-Unis dans le conflit suite à l'attaque de Pearl Harbor dans le Pacifique.
Et puis bon, quand même ça, à Saint-Florentin, il y a quand même ce qui pèse très lourd, c'est la guerre contre l'URSS. Hein. Oui. Là, on est quand même en guerre depuis le 22 juin, et c'est pas gagné d'avance, et on demande aussi à la France un certain nombre de garanties. Hein.
Oui, c'est vrai que c'est un chapitre qui se termine à partir de décembre, après l'entrevue de Saint-Florentin, le 7 décembre, avec Pearl Harbor, les États-Unis vont rentrer dans la danse. Et c'est très important de voir cet aspect géopolitique, c'est aussi une guerre qui va devenir finalement mondiale. On va passer d'un conflit qui finalement était centré sur la Méditerranée, parce qu'on oublie très souvent que le conflit était aussi important dans l'Empire. Hein, n'oublions pas que nous avions l'AEF, l'AOF, on en reparlera après la pause, mais on s'affrontait, on se rencontrait, on guerroyait à Dakar, on guerroyait au Gabon, au Tchad, et une partie de la guerre était en train de se jouer, et on verra qu'elle aura un rôle très important par la suite, cette Afrique.
On se retrouve donc dans une poignée de minutes avec nos deux invités, François Genrot et Frédéric Gand, pour évoquer l'entrevue Pétain-Göring en gare de Saint-Florentin-Virginie. Rappelons-nous, c'était le 1er décembre 1941.
Cette fête. Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
C'était il y a plus de 75 ans, le 1er décembre 1941, Pétain et Göring se retrouvaient en gare de Saint-Florentin, Virginie, et nous avons donc le bonheur et la chance d'avoir deux historiens pour revenir sur cet événement. Alors cette rencontre, la question bien sûr s'adresse à vous deux, qui la réclame, comment s'organise-t-elle le 1er décembre 1941 dans Lyon, donc en gare de Saint-Florentin, Virginie?
Alors c'est Pétain qui la réclame, également Darlan, qui depuis le mois de février 1941 a remplacé le triumvirat qui avait succédé à Laval, dont on a parlé tout à l'heure, qui avait été mis sur la touche. On peut peut-être en dire un petit mot d'ailleurs, ce triumvirat, parce que ça nous touche au premier chef, puisque l'un des trois membres qui organisait ce gouvernement transitoire était Flandin. Flandin, donc maire de Domcy-sur-Cure, conseiller général, député, président pendant longtemps de l'Alliance diplomatique, et qui avait joué sa propre carte, et qui était aux côtés de Darlan, qui était donc le ministre de la Marine, et du général Hunsinger, qui était le ministre de l'Armée. Et donc, dans cet interrègne, ils ont essayé de reprendre langue avec les Allemands. Parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, on n'a pas eu le temps, c'est que les Allemands ont été furieux de l'éviction de Laval. Il faut bien comprendre que Abetz, Ribbentrop, Hitler sont atterrés par cette décision. Pour eux, tout se passait bien avec Laval, ils étaient dans un processus de collaboration qui allait leur apporter des avantages militaires dans l'Empire, et d'un seul coup, sans qu'ils s'y soient attendus, Laval est sorti du jeu et ils ne comprennent plus. Donc Flandin essaie de jouer sa carte personnelle, ils n'en veulent pas, Abetz n'en veut pas, en plus il a d'abord cherché, il faut bien le dire, à prendre langue avec des hauts généraux de l'armée allemande au Majestic, ce qui a beaucoup déplu à Abetz. Donc il s'est discrédité, donc les Allemands, Hitler y compris, vont essayer d'imposer Laval, ils ne vont pas y parvenir, et c'est Darlan qui, il faut le rappeler quand même, était ministre déjà dans le cabinet de Laval, qui va devenir le premier ministre de Pétain. Et Darlan a envie de prouver qu'il est aussi malin, voire plus malin que Laval pour négocier, et qu'il va lui aussi réussir à desserrer les taux allemands et d'apporter à la France des améliorations. Alors pourquoi faut-il apporter des améliorations? Parce que depuis 40, les réquisitions se sont très lourdement aggravées, et les préfets, ça c'est une modernité du régime de Vichy, qu'on a connu quelques-unes, donc les préfets faisaient régulièrement une synthèse, qui ensuite était transmis au gouvernement de Vichy. Donc ils avaient une très très bonne connaissance de l'opinion publique. Et ils découvrent que les Français sont en train totalement de se désolidariser du gouvernement de Vichy. Et ils comprennent qu'il faut absolument faire quelque chose. Il faut donner des gages à l'opinion. Et en plus, il faut leur prouver qu'on va tout faire pour ramener ces prisonniers de guerre, parce que quand même, il manque dans l'économie, et puis il faut leur prouver qu'on essaie quand même de défendre les Français en leur donnant un petit peu plus de beurre, un petit peu plus de viande, etc. Donc Darlan va mener cette politique de rapprochement qu'avait commencé Laval, et il va s'engager beaucoup trop sûr de lui. Il va promettre plus qu'il ne peut tenir. Que va-t-il promettre? Il va promettre la possibilité aux Allemands d'utiliser des aéroports en Syrie,
oui.
Pour pouvoir aller en Irak. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait un enjeu très très important, qui sera encore plus important dans les années qui suivront, c'est le pétrole irakien. Et les Anglais avaient renversé le dictateur local qui était proche des Allemands, qui s'appelait Rachid Ali. Mais pour pouvoir le remettre en place ou pour le soutenir, il fallait envoyer des avions. Et ces avions qui décollaient de la Grèce ne pouvaient pas, à l'époque, aller jusqu'en Irak. Donc il fallait faire une escale technique en Syrie. Et la Syrie était française depuis le mandat de la Première Guerre mondiale. Et donc, Darlan va accepter ce qui était totalement contraire à l'esprit de l'armistice, puisque depuis le début, on l'a dit, l'armistice laisse la souveraineté totale à la
La
France
France,
pour ce
oui.
qui est de la Syrie et de l'Empire. Et il ne fallait surtout pas, on n'en a encore pas parlé ça, mais c'est très important également, il ne fallait surtout pas inquiéter les Anglais. Parce que depuis octobre, on avait un gentleman agreement entre l'Angleterre et la France, qui s'était soldé quelques semaines après, entre août et septembre, par une sorte d'accord de neutralité dans l'Empire. Vous ne nous agressez pas, on ne vous agresse pas. Pourquoi? Parce que si vous nous agressez, nous, depuis Gibraltar, que nous contrôlons, avec notre flotte, nous allons détruire, couler tous les bateaux qui partent de l'Afrique du Nord et on ne pourra plus vous ravitailler. Donc, pour cette raison-là, on s'était engagé auprès des Anglais à ne pas aider les Allemands. Or là, qu'est-ce qu'on fait? On les aide. Première. Donc deuxième chose, on promet, Darlan promet de donner un port, le port de Bizerte, qui est très stratégique aux Allemands, pour qu'ils puissent ensuite de là, par voie de chemin de fer, envoyer des troupes pour aider les
Pour
troupes de
aider
Rommel qui
Rommel,
étaient en
oui.
difficulté en Libye. Et enfin troisième, donner la possibilité d'utiliser le port de l'Atlantique très stratégique de Dakar, où pouvaient mouiller à la fois les ports et les sous-marins allemands. Donc ces protocoles, c'était très très important pour les Allemands, parce que pour eux c'était une façon, espéraient-ils, vaincre les Anglais dans l'Empire. Et Darlan leur promet tout ça en échange, pense-t-il, d'aménagement, c'est le fameux mémorandum dont on va parler plus tard au cours de notre soirée. Et les Allemands, en fait, n'ont pas envie de donner des avantages, n'ont pas envie de réarmer la France.
Rappelant souvent que la France est tout de même le vaincu, le pays vaincu.
Exactement, c'est tout à fait ça. On le sait très bien maintenant, on s'en était pas rendu compte sur le coup, mais on sait très bien, on a trouvé d'autres documents depuis, que ce soit Goering, son entourage, que ce soit Hitler, il y avait un profond mépris pour la France. Il s'agit d'affaiblir et d'humilier, c'est la revanche du diktat, hein, c'est la revanche de la défaite de 14-18, hein. Il n'est pas question de collaborer avec l'Allemagne. Or, les membres de l'entourage de Darlan, de Pétain, pensent peut-être qu'on pourrait faire une sorte de co-belligérance, qu'on pourrait peut-être un peu avec eux les aider militairement, ce que ne veulent absolument pas les Allemands. Donc c'est un marché de dupes qui est en train de se mettre en place. Et le 28 mai 1941, sont signés les protocoles de
De
Paris
Paris, oui.
qui rendent actif cette négociation. Mais alors là, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il y a le délégué général en Afrique qui s'appelle le général Weygand qui dit: moi, je n'applique qu'une seule chose à la lettre, c'est la convention d'armistice. Et la convention d'armistice ne permet pas d'accepter ça. Donc, je refuse ça. Donc, à ce moment-là, Pétain rapatrie à Vichy Weygand et Darlan sent très bien que. Il appuie la main, qu'il est allé trop loin. Donc il fait une volte-face terrible pour essayer de se racheter. Le 14 juillet, il envoie quelque chose qui est extraordinaire, qui est passé inaperçu aux yeux de certains historiens. Il envoie un texte qui est une sorte de nouveau traité dans lequel, une sorte de mémorandum également, où il dit qu'il faut redonner la place de la France dans une grande Europe économique et militaire, qu'il faut revenir sur toute la convention d'armistice. Les Allemands sont tellement furieux qu'ils ne répondent même pas. Ribbentrop ne veut même pas donner réponse à Pétain lui-même, et il est tellement furieux qu'il rapatrie Ribbentrop, pas Otto-Abetz.
L'ambassadeur d'Allemagne en France.
Est sanctionné, il est allé trop loin. Et tout ça, bon, on pourra en parler peut-être tout à l'heure, c'est l'œuvre de quelqu'un de très intelligent, mais de très intrigant, qui s'appelait Jacques-Benoît Méchain.
Alors, le livre de Benoît Méchain, à mon avis, est incontournable. Hein, donc, ça doit être le deuxième tome de c'est vraiment incontournable. Il a une vision très très claire et très précise de ce qui se passe à l'époque. Or, Benoît Méchain, quand il écrit tout cela, il risque plus grand-chose. Il est déjà une partie. Il est en prison à l'époque, hein, quand il écrit les premiers tomes. Et il écrit de mémoire, en plus. Hein. C'est assez spectaculaire. Benoît Méchain, il deviendra sous la Ve République aussi un homme incontournable avec tous les pays arabes. Hein.
Alors,
Il faut pas l'oublier. Hein.
Frédéric Gand.
Oui, on pourra revenir dans un instant sur Jacques Benoît Méchain, mais je ne voudrais pas perdre nos auditeurs. Il faut quand même rappeler que après donc le rapatriement forcé d'Otto Abetz, les Allemands font la sourde oreille. On n'a plus aucun canal diplomatique ouvert avec l'Allemagne. Comment fait-on ? Hitler ne veut plus entendre parler d'une négociation quelle qu'elle soit avec la France, Ribbentrop est furieux également. Que fait-on ? La seule manière de retrouver un moyen de discuter, c'est de le faire sur un plan militaire entre deux maréchaux de la Grande Guerre. Et c'est par le biais du souvenir de la Grande Guerre que Pétain va réussir à obtenir cette entrevue entre deux soldats.
Mais sans
le canal de l'ambassade d'Allemagne, sans les politiques.
Mais il y a quand même une condition, hein, c'est la condition, c'est de virer Weygand. Hein, donc Weygand, il faut le mettre sur la touche. Hein, et là, une fois que Weygand est sur la touche, l'entrevue pourra avoir lieu. À mon avis, c'est comme ça que ça se joue.
Tout à fait, François a raison.
En le résumant gage. Rapidement.
Oui, c'est ça. Il faut que l'on donne des gages de bonne volonté aux Allemands pour montrer qu'on est à nouveau de bonne foi. Pétain écrit une lettre une première fois à Hitler, il ne lui répond pas. Il va se dépenser pour essayer de retrouver une relation un petit peu amicale avec les Allemands, même diplomatique tout simplement. Et il va leur promettre la tête, hein, il faut le dire, de Weygand. Weygand va être convoqué et il va être ensuite mis en résidence surveillée à Grasse puis à Nice.
Il va être remplacé par le futur maréchal juin, par le général juin.
On se retrouve dans une poignée de minutes pour, cette fois-ci, rentrer dans le déroulement de cette entrevue entre Pétain et Göring dans Lyon, en gare de Saint-Florentin, Virginie. Je rappelle la date, 1er décembre 1941, avec nos deux invités, François Genrot et Frédéric.
Mais peut-être un peu des deux. Je cherche tes défauts en traduisant tes mots. Et si on s'accouplait, oh, le temps d'un couplet, dans ma langue ou la tienne, dis-moi celle qui te gêne. Parmi ceux qui crient, qui t'embrassent et t'acclament, il y a celui qui rêvasse et qui s'acharne. Dans tes duos se gare, je veux que ce soit moi. Véronica. Fréquence. Parmi ceux qui crient, qui t'embrassent et t'acclament, il y a celui qui rêvasse et qui s'acharne. Dans tes duos se gare, je veux que ce soit moi.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Une émission au cours de laquelle nous feuilletons le livre de l'histoire locale avec nos deux invités, François Genrot et Frédéric Gand. Nous parlons de l'entrevue Pétinguering en gare de Saint-Florentin-Virginie. C'était le 1er décembre 1941. Alors, il faut que nous parlions de cette entrevue. Donc, le maréchal Pétain est invité par les Allemands à rencontrer donc Göring. On est sur, on l'a dit, une rencontre d'ordre plutôt militaire. Chacun... se souvenant qu'il a été combattant pendant la Première Guerre mondiale. Alors, Pétain va devoir franchir la ligne de démarcation pour se rendre en France, mais il ne sait pas, en fait, qu'il doit venir en gare de Saint-Florentin-Virginie. Le lieu de la rencontre est tenu secret jusqu'au bout. Alors,
le lieu de la rencontre est tenu secret, et Pétain l'apprendra juste à Coulonges-sur-Yonne, quand il descend du train, et qu'il va revenir de Coulonges-sur-Yonne à Saint-Florentin, en voiture avec une escorte, etc. Et il y a ces deux Brinons qui l'attendent, qui le rejoint à Coulonges-sur-Yonne, donc et ils reviennent, donc ils reviennent par Auxerre. Alors, la légende entre guillemets veut que on ne passe pas devant la statue de Paul Bert, parce que c'est quand même le grand défenseur de l'école laïque, et on passe par le pont de la Tournelle. Alors ça, faut-il encore le démontrer, hein. C'est Bailly qui raconte, je crois, dans son livre, hein, sur la résistance. Donc il arrive à Saint-Florentin par le pont de Saint-Florentin qu'on en connaît, et il arrive donc à la gare de Saint-Florentin, où il y a une fanfare allemande qui, à mon avis, ne jouera pas, mais enfin bon. Là, il y a un service d'ordre, bien sûr, allemand très important, à l'amont de Saint-Florentin et à l'aval, parce que ça va jusqu'à après Brinon, le service d'ordre le long de la voie ferrée, quoi. Et puis, il y a Göring qui est arrivé par son train blindé de Troyes à Saint-Florentin. Il a passé un petit moment... un peu avant la gare de l'Est de Saint-Florentin, qui était sur la petite voie ferrée, la voie impériale, hein, je crois qu'on dit. Et donc il arrive à Saint-Florentin, Göring, avec son train blindé. Il est aiguillé sur la voie de l'ancien PLM, hein, et donc il va descendre de son train et accueillir Pétain qui arrive en voiture, et Göring, comme vous l'avez vu dans les petites actualités, descend du perron de la gare, va voir Pétain, etc. Et donc là, il y a le curé de Virginie qui veut intervenir, l'abbé Auclair, parce qu'il est président des anciens combattants de la guerre 14-18 et des blessés de guerre, et en plus, il est représentant des prisonniers de guerre de la région de Saint-Florentin. Donc il se fait mettre de côté, bon voilà. Et puis les deux maréchaux donc, arrivent dans la gare, repassent par le passage souterrain et vont ensuite dans le wagon de Göring, où tout va se passer.
Il faut dire aussi que la population n'a pas du tout été informée de cette rencontre. Elle n'est pas médiatisée.
Non, pas du tout. Vas-y, vas-y.
La rencontre est hautement sécurisée de part et d'autre. Les Allemands, déjà, ont tenu à garder la main jusqu'au bout. Ils ont informé juste le général Hannes, qui à Paris, qui était le représentant de la Luftwaffe, l'armée de l'air, et qui était un proche de Göring. Göring, n'oublions pas, c'est quand même le numéro 2 hein, de l'État allemand, et également le ministre de l'armée de l'air. Et donc, Hannes sait qu'il va devoir rencontrer à Coulonges-sur-Yonne Pétain, et qu'il va lui annoncer ce jour-là, au moment où ils arriveront, autour de 11h, le lieu et la destination. Même de Brinon, qui est le délégué général, on va dire pour faire simple, ambassadeur de Pétain à Paris, ne sait que la veille qu'ils vont aller à Coulonges-sur-Yonne. De leur côté, les Français ont juste réservé un train qui part de Vichy la veille le 30, qui va rester en gare à la Ferté-Autrive, c'est-à-dire la dernière gare avant
la ligne de démarcation,
et Moulins, et qui ensuite a le droit, parce qu'on a bien sûr complètement sécurisé les voies, on a arrêté tous les trains avant et après, jusqu'à La Roche-Michel.
Il va revenir, voilà, il revient à vide, quasiment à vide, jusqu'à La Roche, il va jusqu'à La Roche-Michel et remonte à Saint-Florentin.
Non, la voie, c'est le plan de sécurité numéro un, oui, pour les visites protocolaires très importantes. On a prévu un train qui peut aller jusqu'à La Roche-Michel et c'est tout. Oui. Et ensuite, ce sont les Allemands qui décident. C'est pour ça qu'en fait, ils vont en voiture de Coulonges-sur-Yonne, oui, jusqu'à Vergigny. Parce qu'en fait, le train, il ne s'est pas...
C'était pas prévu. Donc.
Pas... Et les Allemands, donc, se sont bien gardés pour des raisons de sécurité assez faciles à comprendre. La première, c'est qu'il fallait éviter tout bombardement. À l'époque, la flotte anglaise, aérienne, bombarde très facilement les trains. Et il faut soit être proche d'un tunnel, ce qui n'est pas le cas à Vergigny, soit avoir une garnison proche, qui est le cas à Saint-Florentin, puisqu'il y avait un dépôt de génie, parce qu'il y avait le camp de munitions de Chéhu. Et donc, il était possible de sécuriser beaucoup mieux qu'à La Roche-Michel, au dépôt de La Roche, n'oubliez pas, avec tous ses faisceaux, ses voies, ses ponts tournants, plus sa population...
qui était quand même pro-communiste.
Voilà, probablement plus difficile à contrôler. C'est pour ça que les Allemands ont choisi Vergigny.
Donc, le choix de Saint-Florentin, forte présence allemande sur place. D'ailleurs, le site a été bombardé en août 44, on peut le dire. Proximité donc, vous l'avez dit, tu l'as dit Frédéric, du camp de munitions de Varennes-Chéhu. Et puis, il y a une commande en tour à Saint-Florentin.
Oui.
Alors, on peut, là, j'invite là, les auditrices et auditeurs à partir d'un moteur de recherche, hein, entrevue Saint-Florentin-Pétain-Göring, c'est gratuit, on y accède très aisément sur le site de l'INA, ça dure un peu plus de 2 minutes 30, et ce sont des images qui surprennent. Alors, Göring, avec son bâton de maréchal, on le voit bien d'ailleurs, oui, hein, ses saluts militaires et puis sa croix.
Toutes ces décorations.
Croix de guerre. Rencontre donc l'autre grand combattant de la Première Guerre mondiale, qui est le maréchal Pétain, et l'entrevue, initialement, dans la tête de Göring, quel en est le but? Parce que Pétain est venu avec Darlan, qui lui a ce fameux mémorandum, c'est-à-dire un gros rapport.
Ce qu'on appelle aussi la note verbale, c'est la même chose. Hein.
Si. Oui, c'est tout simplement un cahier de doléances.
Voilà. Voilà. Alors, dans l'esprit des Allemands, convoquer, inviter le maréchal Pétain, dans quel but? C'est pour relancer la collaboration sur un plan militaire? Alors, quels sont les objectifs des uns et des autres?
Bien, les objectifs des Allemands sont toujours militaires, on l'a compris depuis tout à l'heure. Il s'agit d'obtenir des avantages. Il se trouve que Göring, lui aussi, est en difficulté vis-à-vis d'Hitler. N'oubliez pas, on en a parlé, il a échoué en Irak parce qu'il est allé là-bas, hein, donc c'est une affaire qui est portée à son compte. Et il avait promis qu'il donnerait des avions, parce qu'il était aussi chef de l'industrie aéronautique, des avions opérationnels pour faire la conquête de l'Angleterre, et il est très en retard.
C'est ça. Ouais.
Donc il est en difficulté, il veut se refaire. Il veut prouver que lui, par son canal militaire, il peut obtenir de la France. Et il espère bien que la France va lui dire, bah, écoutez, pas de problème, on veut même vous aider à combattre l'URSS, parce qu'ils sont un peu en difficulté à ce moment-là de la guerre contre l'URSS. Il commence à piétiner. Et puis du côté français, c'est assez étonnant, on espère pouvoir transformer cette entrevue qui a été annoncée entre deux militaires en une entrevue politique. On espère obtenir des avantages d'ordre politique, puisqu'il s'agit de revenir sur la convention d'armistice, d'obtenir une libération de prisonniers, des adoucissements des conditions et des réquisitions. Et puis toute cette forte occupation qui pèse sur les Français.
Il y a quand même Rommel qui est en difficulté, hein, hors de Saint-Florentin.
Oui, il y a aussi ça.
Et donc, on vient aussi pour Bizerte, on vient aussi pour aider Rommel. S'il est en grande difficulté de se replier un peu plus vers la Tunisie, hein, je pense. Hein, voilà. Donc, tout ça, c'est aussi l'enjeu de Saint-Florentin. Le problème, c'est que ce mémorandum qui a été prévu par Dumoulin de la Barrette et puis, je ne sais plus, le Rochat aussi. Ça, c'est la grosse surprise pour les Allemands, parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Quoi. Et Göring est furieux. Hein. Et donc là...
Je vous interromps, François. Göring déclare qu'il n'est pas venu à Saint-Florentin pour échanger des petits papiers, qu'il trouve insensé que le gouvernement français se soit permis de lui présenter un pareil document et se prenne pour le vainqueur.
Voilà. Alors ça, c'est la grande... Göring est furieux, c'est vrai. Et puis après, donc il y a tout cette légende mentissera à partir de ce mémorandum, parce que bon, finalement Göring va l'accepter, le mémorandum, mais Pétain dit que Göring refuse et qu'il lui met dans la poche. Et beaucoup d'historiens reprennent ces erreurs-là aussi. Des historiens mais, qui ont quand même pignon sur rue disent.
Oui, mais ça, c'est la légende.
Oui, mais les historiens reprennent cette légende à leur compte. Là, hein, voilà.
C'est la légende rose qui présente un Pétain très pugnace qui aurait mis de force dans la poche du maréchal la synthèse du mémorandum. En réalité, c'est pas comme ça.
La légende rose, c'est ça, quoi.
Alors, finalement, cette entrevue pour le régime de Vichy n'aura pas porté ses fruits. Elle fut plutôt un échec, contrairement, justement, à ce que le régime de Vichy a laissé entendre, même à l'époque. Et il y a donc, François Genrot, un tract qui soulève une légende rose. Alors il faut qu'on explique ce qu'est la légende rose, qui s'oppose à la légende noire, qui est celle donc d'une collaboration sévère, autoritaire. Le régime de Vichy a essayé de montrer que la collaboration pouvait être plus souple.
Alors, si vous voulez, bon, dans les ouvrages, parce qu'on a quand même beaucoup lu avant de faire ce colloque, donc il y a des historiens, un historien comme Marc Ferraud, parle de la légende rose, mais on voit pas le... Alors, donc, moi, c'est pour ça qu'on a relancé ce colloque. Un de nos adhérents de la SHVCB, Borges, avec son épouse, dans un vide-grenier dans le Tonnerrois, a acheté ceci, et il nous l'a apporté, quoi. Donc on l'a fait authentifier, et on a bien vu que c'était un des tracts de la légende rose, où là, où Pétain apparaît comme un homme qui résiste à Göring, qui met des conditions, et qui reprend un certain nombre de questions, ce qu'il y a dans le mémorandum, quoi. Et là, on fait mousser Pétain. Quoi.
Donc c'est un document de la propagande de Vichy.
De Vichy, voilà. Alors le problème, c'est qu'il n'a jamais, il n'était pas daté. On ne savait pas à quelle époque il avait été sorti. Alors donc, un autre historien de Saint-Florentin, Jean Milot, qui est décédé depuis, m'a dit, mais moi j'ai aussi une légende rose, mais elle est manuscrite. Et donc celle-ci, au moins, elle a l'avantage d'être datée. Elle est datée du 12 décembre 41 et elle circulait à Saint-Florentin manuscrite. Et c'est exactement mot pour mot le même que celle que Borges a achetée dans un vide-grenier qui est dactylographié. Alors ça, c'est intéressant parce que là, on sait qu'à partir du 12 décembre 41, cette légende circulait dans la région de Saint-Florentin.
Donc il s'agissait de redorer le blason de la collaboration, voilà, en tout cas de Pétain en tant que chef de l'État français.
Oui, oui, alors ça, il y a cette légende rose, et puis après, il y a ce qu'a dit Pétain aussi devant son Conseil national, alors ça, tu peux en parler. Hein.
Oui, je pense qu'on peut remettre ça dans un contexte un peu plus large. On parlait tout à l'heure de l'opinion publique, hein. Faut pas penser que le régime de Vichy, parce qu'on est en 41, c'est un régime qui ne connaît que la radio et quelques journaux. C'est un régime qui est très moderne, qui utilise le cinéma, puisqu'on a parlé tout à l'heure des actualités. France Pathé Gaumont, c'était quand même un journal qui était fait par des professionnels de haut niveau à Marseille et qui était capable de montrer une image très favorable de Pétain. Il y avait un secrétariat d'État à l'information, déjà, hein, l'ORTF en quelque sorte, avant la lettre, qui était dirigé par Paul Marion, des gens extrêmement compétents, qui étaient déjà capables de faire des actualités cinématographiques, des journaux avec des images, et qui étaient aussi capables d'organiser une fausse rumeur, comme celle de la légende rose, dont on parle, c'est-à-dire quoi ? Ben, des tracts qui étaient diffusés, qui laissaient penser que, alors que c'est un échec, que finalement cette entrevue était une réussite. On a même retrouvé dans Lyon, où j'en ai trouvé aux archives départementales, un tract attesté par René Grégoire, qui était quand même le commissaire politique, oui, spécial, attestant un tract insaisi dans Lyon, que Pétain aurait résisté en se présentant devant Hitler comme otage lui-même, pour sauver
les otages qui devaient être fusillés.
Voilà, parce que c'est la politique des otages avec le ministre de l'Intérieur Pucheux à cette époque. Vous savez, les communistes commencent à tuer avec l'aspirant Moser qui est tué en 41 par le colonel Fabien. Donc on commence à avoir des communistes qui sont tués, et puis la politique des otages, c'est simple, c'est on tue 100 100 otages pour un soldat, comme ce sera le cas ensuite à Bordeaux et à Nantes. Et face à ça, Pétain était lui aussi de plus en plus discrédité. Donc c'est dans cette volonté de redorer l'image de Pétain qu'on va voir ces tracts. Et nous, on a trouvé, ça c'était une des raisons aussi de ce colloque, on a trouvé plusieurs de ces tracts attestés dans Lyon. Donc il y a eu une opération de propagande. Et cette légende que Marc Ferraud appelle rose par rapport à la légende noire, elle va se poursuivre au moment du procès de Pétain, puisque Fernand Payen, un de ses avocats, va utiliser cette idée que Pétain avait fichu de force dans la poche du maréchal Mémorandum, qui s'était présenté, ce qui est faux bien sûr, pour défendre Pétain. Puis ça sera repris ensuite par Robert Aron, qui va écrire une histoire de Vichy, dans lequel il va dire qu'en fait De Gaulle était l'épée, le glaive, et que Pétain était le bouclier. Donc il y a toute cette légende qui va se poursuivre. Donc en fait, c'est la mémoire de Vichy, mais la mémoire d'un Pétain glorieux, résistant, qui aurait résisté comme d'autres face aux Allemands.
Mais dans le bouquin d'Aron sur Vichy, il ne parle pas de Saint-Florentin. Il va parler de ça, mais après, pour l'opposer à De Gaulle. Mais Aron, il ne parle pas de Saint-Florentin.
Je voulais parler de la filiation
de ce bouclier. Oui. Mais aussi le tract que tu parlais de Grégoire, là, qui reprenait la lettre, soi-disant, de Pétain envoyée à Hitler en disant « Moi, je me propose de me rendre, d'être fusillé à la place des otages », elle n'a jamais été envoyée à Hitler.
Oui, bien sûr. Ah, c'est la fameuse, c'est un peu la mise en pratique de « je fais don de ma personne ».
Voilà,
ça rejoint un peu ce qu'il avait dit au tout début.
En 40. Ouais.
Nous, petit bouclier musical, dernière pause de l'émission, et on retrouve nos invités d'ici quelques minutes. C'est François Genrot et Frédéric Gant qui sont avec nous ce soir pour parler de l'entrevue Pétain-Guerin en gare de Saint-Florentin-Virginie le 1er décembre 1941.
Je n'attends rien et je flâne sans raison. J'écoute le bruit des trains, je laisse passer les saisons. Je me noie dans la foule, dans ces rues je me perds. Quelques rêves qui s'écroulent dans la ville des lumières. On se sent seul, croise les doigts en chemin. Puisqu'on est jeune, que l'avenir nous appartient. On se sent seul, on croise les doigts en chemin. Puisqu'on est jeune, que l'avenir nous appartient. La lune nous éclaire, j'aime quand c'est toi qui conduis. Quand tu fredonnes ces airs pour faire danser nos insomnies. On ne regarde plus derrière, on a la vie devant nous. On s'est promis de le faire, de ne pas finir à genoux. On se sent seul, croise les doigts en chemin. Puisqu'on est jeune, que l'avenir nous appartient. On se sent seul, on croise les doigts en chemin. Puisqu'on est jeune, que l'avenir nous appartient. On se sent seul, on croise les doigts en chemin. Puisqu'on est jeune, que l'avenir nous appartient. On se sent seul, on croise les doigts en chemin. Puisqu'on est jeune, que l'avenir nous appartient. On se sent seul, croise les doigts en chemin. Puisqu'on est jeune, que l'avenir nous appartient. On se sent seul,
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Retour avec nos invités pour parler de l'entrevue Pétain-Goering en gare de Virginie-Saint-Florentin. C'était le 1er décembre 1941. Bien sûr, l'émission touche à sa fin. On a abordé différents aspects. Je rappelle que cette émission, et je vous remercie tous les deux, et notamment François Genreau, il y a des actes du colloque que vous aviez organisé en 2011 autour de cet événement et que, en s'adressant à la SAHVCB ou à la RORI, au pire, en passant par Radion, on saura vous aiguiller, justement, puisqu'on a beaucoup parlé de trains aujourd'hui. Il reste encore de magnifiques spécimens de ces actes du colloque, avec illustrations et bien sûr les communications de chacun des intervenants. C'est absolument passionnant. C'est un très très beau document à avoir dans sa bibliothèque locale. Frédéric Ganleur est au bilan. Alors, une synthèse sur cette entrevue, le rôle qu'elle a joué, son impact sur la vie politique française en 1941 et les années qui suivirent.
Alors on peut déjà dire que c'est un non-événement puisque c'est une négociation blanche. Les uns et les autres vont repartir sans avoir rien obtenu. Mais c'est en même temps un événement médiatique puisque de part et d'autre, du côté allemand avec Otto Abetz et puis du côté français avec le service du secrétariat d'État à l'information de Paul Marion sous contrôle de Vichy, on va faire monter la sauce. Du côté d'Otto Abetz, juste après l'entrevue, on va faire en sorte, avec Debrinon et puis Jacques-Benoît Méchain, de dire que c'est un excellent événement, qu'on a parlé des intérêts de la France et de l'Allemagne. Et du côté français, également, je vous rappelle, petite anecdote, qu'au retour en train vers Vichy, il va devoir, Pétain, s'arrêter pour des raisons techniques, parce qu'il faut remorquer le train à Nevers. Il a beaucoup de retard, puisqu'on a parlé pendant 4 heures, alors que ça ne devait durer que 20 minutes à Virginie. Et là, le préfet, sachant qu'il y avait du retard, a fait venir un comité d'accueil, le préfet Sandon de Nevers, et il monte dans la voiture, il rencontre Pétain, et Pétain lui dit « Nous avons bien travaillé pour la France ». Donc on est toujours dans cette montée en épingle médiatique. Il faut dire aussi que Paris Soir et Les Nouveaux Temps, qui étaient deux organes collaborationnistes, puisque toute la presse était collaborationniste à l'époque, deux d'ailleurs titres qui étaient de la rue du Louvre, vont faire en sorte d'en faire un gigantesque événement, une sorte de Paris Match à l'époque avec des tas d'images. Ils auront l'exclusivité avec quelques photographes qui étaient là. Et puis, le 13 décembre, la France entière va découvrir dans l'illustration, face à une belle photo de couverture et un article à l'intérieur, ce qu'a été l'entrevue de Saint-Florentin. Et tout le monde pensera que c'était important, alors que ça ne l'était pas. Alors, derrière tout ça, il y a eu aussi des négociations pour rien, puisque déjà Pétain et le maréchal se sont rencontrés un petit quart d'heure. Darlan, ensuite, a été introduit. Ils ont discuté, d'ailleurs, dans le livre, on a le compte-rendu de ces négociations et de ces discussions. C'est très, très intéressant. C'est d'ailleurs inédit. Et assez vite, la discussion tourne court et ils vont quitter la voiture salon pour se rendre dans la voiture restaurant. J'ai envie de dire le wagon salon pour le wagon restaurant. Hein, l'émission s'appelle le wagon livre. C'est un petit clin d'œil que je fais au passage à Yannick. Et il faut savoir que c'était un train extrêmement luxueux, avec de part et d'autre une DCA en début et en fin de train, avec bien sûr des wagons techniques hein, pour ses troupes, pour son état-major, pour l'intendance, la Mercedes, mais également pour sa garde-robe, il avait toute une garde-robe, pour sa salle de bain à l'époque, c'est quand même extraordinaire, et pour le restaurant où là toutes les deux délégations vont se retrouver, manger, boire un peu de caviar, et puis finalement ça va se terminer à plus de 5 heures. Courtoisement, il l'a toujours été, le maréchal Goering a accepté que le train de Pétain qui était à La Roche puisse venir jusqu'à Virginie, et il va repartir directement en train, il n'aura pas à faire le trajet retour en voiture, parce qu'il était quand même tard, et il pourra ensuite repartir. Par contre, Goering est resté quand même assez furieux, il va faire un petit tour par Grosbois Montagne en Seine-et-Marne, où il avait sa résidence, avant d'annuler la réception qui était prévue à l'ambassade d'Allemagne à Paris, et il ira finalement au cercle interallié, c'est-à-dire le cercle à Luftwaffe, où il y aura une grande réception, où sera Jacques-Benoît Méchain, dont on parlait tout à l'heure.
Et Debrinon.
et de Brinon et d'Arlan et Laval, pardon.
Et Laval. Voilà.
Un petit mot sur Jacques-Benoît Méchain. C'était quand même un membre du PPF, Parti Populaire Français, un des deux partis fascistes avant-guerre. Ouais. Et c'est lui qui avait quand même poussé Darlan à trop à s'avancer vis-à-vis des Allemands. Et c'est lui qui a en partie la responsabilité de l'entrée de Saint-Flot.
30 secondes. 30 secondes. Ah, bah, les gens de Migennes ne retiendront de l'événement de Saint-Florentin que l'arrêt du train en gare de la Roche-Migennes du train de Pétain qui distribue des paquets de cigarettes de 4 qu'on appelait après plus vulgairement les P4. Voilà.
Et Charles Dopérou, dans son rapport de préfecture de janvier 1942, dira l'événement est resté totalement inconnu des Iconnais qui ont appris ça le 3 au matin dans le Bourguignon. Et c'est passé comme un événement.
Il nous reste quand même le mémorandum qui fait l'état de la France en 1941 et le document de Schmitt qui a été traduit par des amis. Qui est une pièce essentielle de ce dossier. Voilà.
François Genrot, Frédéric Gand, merci de nous avoir livré autant d'informations sur cette entrevue Pétain-Goering en gare de Saint-Florentin-Virginie le 1er décembre 1941. 75 ans après cet événement, il nous a semblé ici à Radion et dans Wagon Livre, effectivement, sans dérailler, d'y revenir et d'y apporter un éclairage historique et érudit sur les heures sombres de notre pays. À tous les deux, merci beaucoup, c'était vraiment un grand plaisir.
Merci.
Je fais vite parce que le temps va nous manquer. Je vous donne rendez-vous mercredi 7 décembre prochain, toujours à 21h, pour un nouveau numéro de Wagon Livre. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Au revoir. Encore merci à vous deux.